Bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de midi, émission de Radio Grenouille en partenariat en lien avec la revue La Pensée de Midi. À l'occasion de cette nouvelle année, une émission un peu exceptionnelle autour de la sortie du numéro Mythologie méditerranéenne avec trois grands invités. Le premier, Félag, comédien bien connu, auteur d'un très beau texte, L'allumeur de rêves berbères, avec le dessinateur Jacques Ferrandez, qui a d'ailleurs fait la couverture de ce numéro de La Pensée de Midi, et qui vient de sortir un nouvel album de ses Carnets d'Orient, et puis l'auteur de romans policiers, Maurice Attia, qui après Alger la Noire, vient de publier Pointe Rouge. Et donc avec eux, on va commencer à parler de ces mythologies méditerranéennes, et pour chemin faisant, explorer la réalité littéraire du lien avec Alger et l'Algérie, puisque ces trois auteurs nous viennent de l'autre rive de la Méditerranée.
Une émission enregistrée à la brasserie Les Danaïnes, que l'on remercie pour son hospitalité, le 12 décembre 2007, en partenariat avec le journal Zibline.
J'aimerais commencer par Félag. Vous entendez mythologie méditerranéenne, quelle résonance ça a dans votre oreille et dans votre verve, je dirais, puisque c'est souvent ce qui est à l'œuvre sur scène, Félag?
Pour moi, la mythologie méditerranéenne, c'est le premier des médias. C'est la première télévision depuis toujours, depuis la naissance de l'humain méditerranéen. L'homme, la femme de la Méditerranée a inventé un cadre, comme disait Catherine tout à l'heure, c'est que toutes les strates, les peurs, les angoisses, les envies, les désirs des sociétés, transcrit en histoire comme était dans des cadres. Ensuite, ce cadre-là passe à quelqu'un d'autre qui met ses propres peurs, ses propres angoisses. Je dis ça parce que quand j'étais petit, moi, tout petit, en revenant en arrière, j'ai entendu des grands-mères, mes grandes tantes me raconter des histoires que j'ai lues plus tard, dont j'ai retrouvé des adaptations, plutôt que c'était des adaptations de Ulysse. Donc, où je retrouve le cyclope, où je retrouve toutes les figures de la mythologie grecque et autres, phéniciennes, ont voyagé, et chaque peuplade, chaque tribu, chaque personne un style injecte ses propres histoires, et ces histoires-là permettent d'avoir des informations qui nous aident à vivre, qui nous aident à comprendre le monde et qui nous donnent aussi le cadre qui nous permet à nous-mêmes ensuite de raconter des histoires, de mettre nos propres histoires, et c'est ce qui nous unit aussi aux autres.
Le mythe, ce raconteur d'histoires. Alors, Maurice Attia, vous qui êtes aussi un raconteur d'histoires, notamment d'histoires policières, à partir des villes, on y reviendra avec Alger, La Noire et avec Pointe Rouge tout à l'heure. Quand vous entendez mythologie méditerranéenne, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors d'abord, il faut que vous sachiez que je suis bavard.
Mais rassurez-vous, j'ai l'habitude de vous couper.
J'ai trois histoires personnelles. La première, puisque Félag n'a pas fait son boulot de nous faire rire, j'ai essayé. C'est une blague juive. C'est trois mères juives dans un jardin qui parlent ensemble de leur fils. Et l'une dit, mon fils m'adore. Toutes les semaines, il m'invite dans un grand restaurant. C'est merveilleux, il dépense plein d'argent pour moi, c'est merveilleux. L'autre dit, mais moi, mon fils, toutes les semaines, il m'envoie des gerbes de fleurs. Tous les samedis, il m'envoie des gerbes de fleurs. Et la troisième dit, mon fils, il paye quelqu'un trois fois par semaine pour parler de moi.
Première mythologie.
Deuxième mythologie plus classique, c'est Ulysse. Mais pas dans la mythologie grecque, mais dans un vécu personnel. Plus je vieillis, plus je me rends compte que j'erre d'endroit en endroit, de lieu en lieu. Beaucoup de gens me demandent pourquoi j'habite à Orléans alors que je suis né à Alger, que j'ai vécu à Marseille, que j'ai vécu à Paris, aux Antilles. Je cherche ma place et tous les ans, j'ai un rituel en juin avec un ami pied noir. Nous errons en Méditerranée en quête de retour, et on s'est rendu compte quelque temps qu'au fond, peu nous importait de revenir, Ce qui était important, c'était de errer. Et la troisième mythologie...
Vous savez qu'il y a un très beau texte d'un grand poète d'Alexandrie qui raconte ça, justement, autour d'Ulysse et qui a dit que ce qui est important, c'est non pas le voyage, mais c'est le chemin.
Oui, et Kundera en parle dans son bouquin sur le fait qu'il n'a pas vraiment envie de revenir, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est le voyage, c'est la découverte, et au fond, il n'a pas vraiment envie de revenir, sinon il serait revenu. La troisième, beaucoup plus intime et réellement la plus importante... C'est la terrasse. Non pas la terrasse d'un café, mais la terrasse qui domine celle que j'ai connue enfant, tout petit, celle de la Casbah. Et venant de l'obscurité des ruelles de la Casbah, monter le lundi avec les femmes qui faisaient leur lessive sur la terrasse et découvrir tous les lundis la baie d'Alger, c'était un émerveillement. Et j'ai découvert aussi à l'usage que... À chaque fois que j'allais dans un pays de Méditerranée, je cherchais un endroit où il y avait une terrasse pour pouvoir dominer un point de vue, une baie, un endroit, parce que ça résonnait très fort en moi. Voilà, c'est tout.
Trois fragments de mythologie méditerranéenne. Alors, la mythologie méditerranéenne, la terrasse comme un éblouissement. Jacques Ferrandez, c'est une sollicitation du regard, ce qu'il y a beaucoup dans tous ces carnets d'Orient. Et au fond, la première mythologie, elle est dans l'art de dessiner, non ?
Oui, moi j'ai préparé quelque chose quand tu m'as demandé.
Très bien, voilà quelqu'un de sérieux.
Non mais je réfléchis depuis 10 minutes là, parce que tu m'as demandé pour moi ce que c'était la mythologie en Méditerranée. Vous voyez une chose qui est peut-être beaucoup plus prosaïque mais qui est liée à la fois à la mer et à la nourriture, qui est que on a toujours par rapport à ce que nous a une espèce de plat fétiche que prépare la mer méditerranéenne, et j'ai lu un petit texte à ce sujet là dans le numéro de la Pensée de Midi. Quand vous mettez deux natifs d'Algérie ensemble et que vous les invitez à manger un couscous, immanquablement, il y aura toujours la référence au couscous que fait sa propre mère. Donc évidemment qu'il reste l'espèce de maître étalon du couscous. Et que ce soit quelqu'un qui est né dans la communauté européenne d'Algérie, ce qui est mon cas, que ce soit évidemment un Algérien musulman ou un juif d'Algérie, à chaque fois il y aura cette mythologie qui sera liée à sa mère nourricière au sens étymologique, et avec cette espèce d'objectifs que personne ne pourra atteindre.
Donc c'est indépassable.
Indépassable. Le couscous de la maman, c'est indépassable.
Alors, et une mythologie en images, c'est quoi ? C'est peut-être les carnets de Delacroix ?
Oui, moi je suis venu... Enfin, je suis donc effectivement dessinateur avant tout. Et je crois que ce qui m'a motivé pour traiter de cette question... qui était lié directement à mon histoire, qui était cette histoire commune entre la France et l'Algérie. Je pense que c'est effectivement la découverte des carnets de Delacroix au Maroc, où il y avait effectivement un récit qui était son livre de bord finalement, mais qui était émaillé de textes et de dessins. Et moi, comme je fais de la bande dessinée, j'ai retrouvé là une espèce de père spirituel et artistique, disons, en la personne de Delacroix et de ses carnets. Et ensuite, je me suis mis un peu dans sa peau pour faire moi-même mes carnets tout autour de la Méditerranée.
Il y a une halle de la Croix à Marseille, puisque son père, je crois, était préfet à Marseille. Donc voilà, on est là aussi dans le lieu de tous les croisements et tous les cheminements. Donc voilà quelques fragments de mythologie méditerranéenne. On va cheminer avec nos invités, à partir au fond de leurs livres, puisqu'ils sont là pour en parler. Donc Félag avec l'allumeur de rêve berbère, avec qui je vais commencer. Alors Félag, vous avez fait les honneurs de la semaine de libération la semaine dernière, et il y avait un passage assez formidable, comme toujours, qui s'intitulait « Humour du désespoir ». Alors j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur... Parce que c'est souvent ce qu'il y a dans vos spectacles, dans vos textes aussi, ce sens de l'humour comme une espèce de revanche ou d'affirmation de la vie face à la cruauté de la situation actuelle. Félag.
Écoute, je crois que l'humour du désespoir, c'est une c'est une façon très très naturelle, hein. C'est physique, c'est chimique. Dès qu'il y a quelque chose de terrible, dès qu'il y a un danger, on est obligé d'inventer du rire pour ridiculiser la mort, pour rendre le danger, pour le liquéfier le danger. C'est une sorte de machine à laver qui nous permet de nettoyer les peurs et les angoisses et de continuer à vivre. Parce que je pense que chacun de nous, quel que soit le degré de la violence, c'est toujours le point qui est au fond là-bas, c'est de continuer à exister, à aller devant. Et donc aujourd'hui, en Irak, l'humour de Bagdad a dépassé l'humour algérois, parce que la violence à Bagdad est allée tellement loin que les gens de Bagdad, qui étaient des gens très cultivés, des gens de culture et d'humour...
Citadine. Une grande culture citadine.
Une grande culture citadine ancestrale de millénaire. Et donc, ils ont inventé j'ai lu un article absolument étonnant, j'en ai parlé dans la page de Libé, qui disent que l'humour dans le monde aujourd'hui... il y a 10-12 ans, c'était à Sarajevo, les gens riaient énormément parce que c'était terrifiant. Et aujourd'hui, c'est en Irak, c'est pas à Alger, bien que des attentats comme ceux d'hier, qui sont d'une violence absolument inouïe, mais on a encaissé le plus gros de la violence, on l'a encaissé au début, dans les années 90. Et aujourd'hui, c'est en Irak. Je raconte une histoire là-dedans qui est assez terrifiante. Moi-même, qui suis humoriste, dont on dit un des champions de l'humour de la gravité, j'ai été totalement désarçonné en lisant cette histoire. C'est un garçon qui regarde la télévision avec sa maman. Quelques mois après la fameuse photo que vous avez dû tous voir à la télé sur la torture à Abu Ghraib. D'ailleurs, Abu Ghraib veut dire producteur d'étrangeté. Ghraib, c'est l'horreur totale. Et donc, ces photos de prisonniers irakiens empilés les uns sur les autres qui sont tout nus. Et l'un des prisonniers, quelques mois plus tard, il est avec sa maman, il regarde la télévision, et à un moment donné, il dit à sa maman: regarde maman, tu me reconnais sur les hommes qui sont... Et l'autre dit: non mon fils, je ne vois pas où tu es. Il dit: mais si, je suis le troisième cul à gauche. Et c'est absolument... Seuls les gens qui sont dans l'horreur, et comme me disait Bruno, mon ami Bruno, qui est comédien avec qui je travaille en ce moment juste à côté, il m'a dit: c'est l'humour, c'est la dernière note d'humour qui reste juste avant d'aller se faire pendre, quoi. Et c'est très très puissant, parce que ou c'est ça ou c'est la corde. Et donc il y a l'imaginaire, il y a la force comme ça de vie qui pousse à inventer des histoires pour faire rire, et ça marche.
Alors dans cette allumeur de rêve berbère, qui est un texte assez noir sur au fond l'Algérie de la pire période, mais il y a une ponctuation qui est la ponctuation de l'eau. De l'eau qui arrive, ou plutôt qui n'arrive pas, ou qui arrive en pleine nuit. Et le livre est scandé comme ça de circulaires extrêmement bureaucratiques, dignes de l'État soviétique algérien. J'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots, pas trop, hein, parce que sinon les gens ne vont pas lire le livre, mais au fond, qu'est-ce qui se joue autour de l'eau, Fellag ? Dans cette période-là en Algérie, et malheureusement, je crois encore toujours, il y a une grande pénurie d'eau.
Écoutez, les petites annonces qu'il y a dans le roman, qui ponctuent le roman, sont inspirées d'articles de presse que j'ai pris dans la presse algérienne d'aujourd'hui. Donc la crise continue. J'ai vécu moi-même ces moments dans une petite cité où l'eau revenait deux fois par semaine, c'est-à-dire le mardi et le vendredi, comme dans le roman. Il y a 10% d'autobiographie dans le roman, mais le reste, évidemment, ce sont des histoires que j'ai imaginées à partir du réel, mais à partir de ce qui peut aussi arriver. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est mon histoire, et parce que j'essaie de raconter des histoires qu'on peut croire vraiment. L'eau revient deux, trois fois par semaine dans des cités, comme dans même dans la capitale, dans le centre d'Alger. parfois on a de l'eau une fois par semaine. Et toute la vie est réglée en fonction de l'attente de ce retour de l'eau, parce que il faut remplir les baignoires, il faut remplir les bassines, il faut remplir les bouteilles, il faut remplir tous les ustensiles pour qu'on ait assez d'eau pour tenir jusqu'au prochain jour où on recevra de l'eau. Et parfois il y a des incidents qui font que tout d'un coup le mardi prochain il n'y a pas d'eau parce qu'il y a un problème bureaucratique, il y a un problème, le technicien s'est trompé, il a donné de l'eau à l'autre quartier, etc. Donc je raconte ça dans le roman. Mais comme l'eau, c'est la seule présence bureaucratique du pouvoir qui n'est jamais là, il n'est jamais là dans ce roman. Il y a le peuple, il y a les fous, les démocrates, les intellectuels, les femmes, il y a les prostituées, il y a, sauf l'État. L'État n'est jamais là. Il y a la police, il y a les intégristes, mais l'État, pour moi, c'est un peu l'eau qui ne vient jamais, ou alors qui est
régulée, maîtrisée.
Voilà. Juste de quoi donner la béquée de temps en temps au peuple, au petit peuple.
Ça rythme effectivement les différents chapitres de ce roman, mais c'est aussi autour de l'eau des grands moments de partage, des grands moments de rencontre. Parce qu'au fond, on est obligé de sortir, on est obligé de. Il y a soudain une grande agitation nocturne de tout l'immeuble et au fond, l'histoire se trame à partir de ce fluide qui est de l'eau.
Oui, en fait, je raconte comment la violence qu'on a connue dans les années 90 et qui continue jusqu'à maintenant, malheureusement, comment elle est née, comment elle arrive petit à petit, comment elle s'incruste dans la société, comment on ne la voit pas, mais comment aussi on veut ne pas la voir, on ne veut pas la voir, et comment elle.
Les premières lettres qui arrivent.
Les premières lettres
de
qui
menace.
Arrivent, les premiers discours d'intolérance qui pénètrent dans la société et que tout le monde fait semblant de ne pas avoir entendu, et puis. Les gens vivent dans une cité, il y a des professeurs d'université, il y a des bergers, il y a des ouvriers, il y a des chômeurs, il y a des prostituées, il y a des vieux, il y a des vieilles, il y a des célibataires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise de logement tellement énorme, tellement cauchemardesque, que quand il y a une petite cité qui est inaugurée, qui est construite, les gens qui vont habiter là, c'est soit les gens qui ont du piston, soit des gens qui ont, parce qu'ils ont manifesté, donc on leur donne un lot, soit parce qu'ils connaissent le maire, soit parce qu'ils connaissent un militaire, soit. Et donc tout d'un coup, il y a une société très cosmopolite qui se retrouve à vivre ensemble avec des philosophies totalement différentes, mais ils sont obligés de vivre ensemble. Et donc, mais il y a des différences au niveau de l'idéologie, au niveau de la philosophie, mais le quotidien est vécu de façon généreuse, même si le barbu ou qui est là, qui est très islamiste, et le professeur d'université qui est en chômage mais qui est athée, le mécanicien, tous ces gens-là ne pensent pas les mêmes choses. Il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui boivent pas, il y en a qui vont à la mosquée, d'autres pas du tout. D'autres ont des pensées comme ça de religieuses, mais qui sont uniquement culturelles, mais pas du tout dogmatiques. Mais ils vivent dans une sorte de distance respectueuse. Et puis la montée de la violence est arrivée. Et dans cette cité, les seuls moments où tout d'un coup les gens se relâchent, retrouvent la vie, retrouvent la générosité, le partage, l'amour, le rire, aussi. La parole, c'est les 2 heures, les 3 heures où revient l'eau. Et dans ce roman, c'est de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Donc les gens, il y en a qui dorment, ils se réveillent à 3h du matin, chacun se réveille chacun a sa technique pour se réveiller, pour aller remplir les bassines. Et tout d'un coup, mon personnage, le personnage principal qui lui observe la société du haut de son balcon, il est menacé de mort, il est rejeté par le système qui l'a servi durant la période soviétique. Et donc il vit seul, sa femme est morte, ses enfants sont partis. Il observe, il fait des fiches sur la société parce qu'il est écrivain, il espère raconter, écrire un roman un jour pour raconter tout ça. Et donc c'est lui qui nous raconte cette vie-là. Et tout d'un coup, il se met 15 minutes avant qu'il y ait 3 heures du matin, avant que l'eau ne revienne. Et il nous raconte comment l'eau revient, mais comment la vie tout d'un coup reprend. Et des personnages et des situations tout à fait délirant arrive dans ces moments-là, de ce moment étrange, comme une sorte de jour d'oasis comme ça dans la nuit, et une sorte de lumière comme ça bizarre, et des histoires étranges qui se nouent. Mais en même temps, c'est plein de vie, plein de générosité, plein de force. Et c'est des moments de, où les gens
de
respiration.
Alors, il y a beaucoup de vie, de tragique aussi dans ce livre. Il y a aussi beaucoup, au fond, d'expression de l'absurde. Et il y a un passage vers la fin, je trouve extrêmement bouleversant, sur ce personnage principal qui... veut se venger et qui est sur le point d'assassiner un pêcheur. Et c'est la figure d'un pêcheur qui en fait ne voit pas. J'aimerais que vous en disiez quelques mots de ce moment-là, parce que je trouve que à travers cet aveugle, il y a tout l'absurde de la tuerie, de la guerre et de ceux qui veulent se venger, se faire... faire eux-mêmes la loi. Il y a dans ce moment-là, j'ai presque ça éclaire tout le, me semble-t-il, tout le livre.
Oui, c'est ce personnage. En fait, tout le roman, c'est le roman d'un personnage. C'est comment quelqu'un dans une situation politique qui s'est emballée, qui est une violence absolument inouïe, inédite. Une violence qui n'est pas nommée, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas d'où ça vient, quand on va mourir, quand, qui va mourir demain, ce soir. Ce personnage qui sait qu'il va mourir, qui se cache chez lui. D'ailleurs, il dit qu'il vit dans un coffre-fort. Et petit à petit, il y a lui-même s'emballe. À force d'essayer de comprendre, à force d'essayer de faire attention, il y a la paranoïa qui l'habite. Et il commence à s'inventer des histoires. Auquel il croit. D'ailleurs, on comprend à un moment donné que la menace de mort n'est pas venue du tout des intégristes, mais tout simplement des gens avec qui il travaille et qui voulaient lui piquer son boulot. Parce que dans les lettres de menace à l'époque, 90% des lettres de menace étaient des lettres de menace de proximité, des gens qui veulent faire fuir quelqu'un pour récupérer son appartement, c'est plus matériel, quoi. C'est plus des petites vengeances au quotidien. Et lui, il en a reçu une comme ça, et donc il part.
C'est un délire un peu paranoïaque.
Il part dans un délire paranoïaque, et quand il trouve ses deux amis, la prostituée, une prostituée de grand cœur, qui est absolument un personnage magnifique de générosité, de force.
Et le bricoleur fou.
Et le bricoleur totalement fou, un petit génie du quotidien. Quand il les a trouvés morts, il devient totalement fou. Et dans la nuit, parce que ce personnage rêve tout le temps, il fait des cauchemars tout le temps, et il fait un cauchemar, il rêve qu'il a vu un pêcheur, et c'est un pêcheur qu'il voit tous les matins en sortant d'un bistrot qui est ouvert que la nuit pendant les heures du couvre-feu. Et il rentre à 5h du matin chez lui, et à chaque fois il voit un personnage, un barbu, qui est en train de pêcher et qui le regarde avec un drôle de sourire, une sorte de sourire que lui voit sardonique, mais c'est le sourire des aveugles, vous savez, qui ouvre la bouche tout le temps comme ça. Et tout d'un coup, il s'est dit, c'est lui. En fait, à chaque fois que je sors de ce bistrot avec mes copains, il nous surveille, c'est lui qui a assassiné mes copains. Donc, il comprend au milieu à 2h du matin, et il va dans le bistrot, et il ne veut pas boire pour rester maître de ses mouvements et de l'action qu'il va commettre. Et il vient avec son fusil qu'il a scié pour pouvoir le mettre dans sa poche. Et en allant à la plage pour tuer cet aveugle, ce pêcheur, qui ne savait pas qu'il était aveugle, et au moment où il allait lui tirer dessus, il était en train de faire la prière. Il attendait qu'il finisse sa prière pour le tuer, parce que c'est pour lui un sacrilège, donc il le laissait finir sa prière. Et au moment où il a fini sa prière, il le regarde toujours avec ce sourire. Et juste au moment où il allait tirer, il tire sur la gâchette, mais il n'y a rien, parce que c'est un vieux fusil qui appartenait à son oncle, qu'il a caché dans la montagne, et l'humidité, les cartouches ont pris de l'eau, etc. Et les deux cartouches ne fonctionnent pas,
le fusil ne tire pas. Et à ce moment-là, il entend papa, papa. Il y a une petite fille qui court sur la plage en lui disant « Viens prendre ton petit déjeuner, les beignets sont prêts. » Et là, le type se lève et il cherche sa fille. Et le personnage découvre que ce type, dont il a peur depuis tout le roman et qu'il a rêvé comme étant l'assassin de ses deux amis, était tout simplement un aveugle, un vieux monsieur, comme une sorte d'Oedipe, comme ça, et qui part avec sa petite fille vers...
C'est peut-être tout un... des plus beaux symboles, des plus tragiques symboles de ces années de...
De ces années-là, où on peut avoir des fixations totalement délirantes sur n'importe quoi. Voilà, je voulais raconter un peu...
Alors, Félag, ça fait écho aussi à la préface, puisqu'il y a beaucoup de liens entre tous les trois, à la préface que vous avez fait au dernier tome des Carnets d'Orient de Jacques Ferrandez, Dernière demeure, où vous parlez justement d'un personnage. Alors celui-là, il n'est pas aveugle, mais il est sourd-muet, et il se fait canarder par un soldat français qui l'interpelle, et il lui tire dans le dos. Et il lui tire dans le dos parce qu'évidemment, un sourd-muet n'a pas entendu les sommations et lui demandait de l'arrêter. Je me suis demandé s'il n'y avait pas, parce que ça, c'est une histoire vraie de votre village, et s'il n'y avait pas des échos entre ces personnages. En tout cas, je voudrais vous lire la fin de cette préface, parce que ça fait un magnifique lien entre tous les deux qui sont au fond très proches et qui se connaissent très bien. Félag écrit ceci. On était presque pareil, sauf qu'on n'était pas du même côté du miroir. Ce n'est pas facile d'être tous du même côté du miroir. Parce que si c'était le cas, qui regarder et qui haïr alors? Face à face, chacun de son côté, nous regardons les mêmes choses au même moment. Deux frères qui voient l'histoire se faire au détriment d'eux, sans eux, incapable d'arrêter son cours ou de glisser un grain de sable pour en arrêter les rouages. Alors on dessine, on fait rire, on fait rêver pour mettre du baume sur tout ça. Bel hommage, Jacques Ferrandez, pour ce dernier tome, enfin ce dernier tome, le dernier à paraître, il va y en avoir d'autres, cette dernière demeure de ces Carnets d'Orient. Qu'est-ce qui vous a amené à solliciter Félag pour cette préface, Jacques Ferrandez?
Et d'abord, avec Félag, on se connaît depuis quelques temps. Pas très très longtemps, je crois que ça fait peut-être 2-3 ans qu'on se connaît. Enfin, moi je connaissais.
C'est des amitiés où on se connaît depuis peu de temps et on a l'impression de se connaître depuis toujours.
Exactement. Enfin, moi je le connaissais évidemment par ses spectacles. Je crois que lui me connaissait par mes albums. Et puis on a été mis en présence tous les deux et immédiatement il s'est passé quelque chose. Comme si on s'était effectivement toujours connus, comme si cette terre sur laquelle on est nés tous les deux nous avait unis par-delà une espèce d'anonymat qu'on avait l'un pour l'autre jusque-là. Et en fait, moi j'avais l'habitude de demander des préfaces pour mes précédents albums. Parce que vous savez, quand on fait de la bande dessinée, on est toujours un petit peu dans un ghetto. On se dit, bon, ben, ce n'est que de la BD, c'est des petits Mickey, donc c'est pas très sérieux. Et j'ai toujours essayé de, peut-être de façon inconsciente, mais d'avoir une espèce de caution comme ça, de gens autorisés sur le sujet que je traite. Et c'est comme ça que j'ai eu, ben, d'ailleurs...
Il y a Bruno Etienne
qui est dans la salle, oui, Bruno Etienne qui avait signé la préface d'un des précédents tomes. Mais c'était jusque-là plutôt des préfaces de spécialistes, soit des spécialistes des historiens, ou des spécialistes du monde musulman, ou des spécialistes de l'Algérie. Et là, brusquement, je me suis dit, mais il vaut mieux, peut-être, à un moment donné, il faudra que je demande aussi à un Algérien, parce que la plupart des gens à qui je demandais étaient effectivement des Français, éminents professeurs. Ou autre. Et là, en fait, ce que Félag, il m'a fait un très beau cadeau. Moi, je suis très fier de cette préface, puisque je crois qu'il raconte pour la première fois ce qu'a été son approche de la guerre d'Algérie alors qu'il était enfant dans un village de...
Et ça commence par un grand coup de pied dans une porte.
C'est ça. Ça commence comme une onomatopée de bande dessinée, d'ailleurs. Et en fait, il raconte quelque chose qui est très intime, enfin, qui est vraiment... Son approche de la guerre d'Algérie dans un petit village de Kabylie où les villageois ne demandaient rien à personne et où ils voyaient arriver effectivement des soldats français avec leurs uniformes, leurs armes et puis les, comment dire, l'espèce de brutalité ordinaire qui était celle des militaires en quête de renseignements, quoi. On connaît tous ces histoires-là. Et là, Fellaq, évidemment, les incarne à travers les yeux d'un petit garçon qui vit cette espèce de violence sans la comprendre. Et évidemment, on peut imaginer que cette guerre d'Algérie au quotidien vue par un petit garçon issu comme ça d'un village de Kabylie pouvait alimenter le ressentiment contre ces Français qu'il n'avait jamais vu finalement en dehors de cette présence militaire. Donc enfin, on imagine un tas de choses à travers ce petit récit qui est...
On imagine aussi son fameux sketch de Jurassic Bled,
oui,
qui relie l'histoire de l'Algérie. On les a sortis.
Oui, c'est ça. Puis je pensais aussi à un autre sketch où il parle des premiers Français qui sont arrivés dans son village et qui étaient des Sénégalais, puisque ils étaient sous l'uniforme français, et les premiers Français qui arrivent, ils sont noirs, quoi. Donc ça perturbe aussi évidemment l'échelle de valeur d'un petit enfant. Mais en fait, ce que dit Fellaq aussi, c'est que à partir de ce qui aurait pu être un ressentiment définitif contre l'occupant français, se noue par la suite, parce qu'il descend à Alger, il va à l'école, et ben se noue des relations avec des petits enfants comme lui qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même couleur.
Ça aurait pu être
un
certain Jacques Ferrandez.
Ça aurait pu être moi, sauf que mes parents ont quitté Alger alors que j'étais tout bébé. Mais en fait, à travers effectivement le vécu d'autres enfants, d'autres cultures, et qui ont simplement en commun la peur de cette guerre qui les dépasse, qu'ils ne comprennent pas et qui les touche tous à égalité d'une certaine façon, puisque on en revient au texte de Camus sur les attentats aveugles, etc. Brusquement, tout le monde est plongé dans cette guerre à son corps défendant, j'allais dire. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse aussi dans les histoires, c'est de voir les choses finalement à hauteur d'homme, sans faire de grands discours théoriques, mais de voir ça à travers le vécu de chacun.
Donc à travers ces carnets d'Orient, donc avec celui-là, Dernière demeure au 9e tome, c'est un travail au long cours, Jacques Ferrandez, parce que c'est une plongée dans toute l'histoire de l'Algérie avec, je crois, une documentation extrêmement précise, extrêmement profonde, avec le sens de l'acuité historique, la volonté d'être précis, de savoir qui dit quoi, qui fait quoi. Il y a bien sûr une part de mythologie à travers les dessins, puisque c'est l'imaginaire à toute sa liberté. Mais il y a quand même une volonté d'être rigoureux dans la façon de raconter ces histoires.
Oui, en fait, si vous voulez, quand on part sur un sujet pareil, bon, moi, ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur le sujet. Je suis natif d'Algérie, je suis le produit de cette histoire-là, et j'ai toujours essayé de comprendre ce qui était arrivé, finalement. Parce que quand je me retrouve avec des Algériens aujourd'hui, finalement, on se demande comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi, alors qu'on peut aujourd'hui complètement s'entendre, s'aimer, etc., pourquoi à un moment donné ça n'a pas été possible? Alors évidemment, il y a...
D'où vient la violence? Parce qu'elle ne vient jamais de nulle part.
Oui, alors justement, enfin, il y a une raison très simple à ça, c'est que l'Algérie était un pays administré par un système colonial, et donc de là découlent effectivement toutes les injustices que Camus a décrites. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement d'essayer de comprendre. Mais alors, quand on part sur un sujet pareil, on ne peut pas s'embarquer sans un minimum de sérieux du point de vue déjà de l'histoire, puisqu'il s'agit de traiter une période qui est encore très sensible dans la mémoire aussi bien des Français que des Algériens. C'est un sujet sur lequel il est très difficile de mettre tout le monde d'accord, comme on le sait. Donc il faut vraiment partir avec des éléments en béton armé, quoi. C'est au point de vue du scénario, d'avoir un fond historique assez précis. Et en même temps, comme je disais, je voulais pas faire quelque chose de didactique ou même de pédagogique. Donc j'ai pris ça par le biais aussi de l'image, parce qu'on parlait de mythologie. Ce qui m'intéressait aussi, c'était la manière dont ce qu'on a appelé l'orientalisme, enfin à travers les peintres, les voyageurs, les écrivains, avait pu finalement être d'une certaine façon le point de départ ou le relais de justement cette aventure coloniale.
Mais dans l'orientalisme,
à travers l'imagerie.
Oui, mais dans l'orientalisme tel que l'a notamment critiqué vigoureusement Édouard Saïd, il y a une volonté un peu de caricaturer l'autre, alors que dans ces albums, il y a un point de vue qui est le vôtre, mais il y a une grande souci d'être à l'écoute, d'essayer de raconter des histoires et de ne pas être dans un seul regard. Il y a souvent, dans les périodes les plus tendues, je pense déclenchement de la guerre, des attentats, la rue de la bombe, tout ça, on entend plusieurs voix, c'est-à-dire comme en écho, et de dire au fond, il y a des éléments de comment dire, chacun porte sa vérité. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité historique. Ben, quand on parle de vérité historique, ça entraîne toujours des catastrophes. Il y a cette volonté de faire entendre, au fond, la pluralité de ces voix qui ont fait l'Algérie, et peut-être un des drames aujourd'hui, et ça je pense c'est souvent dans les spectacles de Fellaini en tout cas, c'est de se retrouver tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de l'autre.
Oui, enfin moi ce que j'essaye toujours c'est finalement d'entrer dans les raisons de l'autre, quoi. C'est-à-dire d'essayer de pas avoir quelque chose d'univoque, mais d'avoir une espèce de polyphonie où chacun finalement vit l'histoire en fonction de l'appartenance, enfin le milieu auquel il appartient, la culture à laquelle il appartient, sa propre histoire aussi. J'essaye seulement moi de montrer effectivement la pluralité des points de vue, encore une fois, pour essayer de comprendre cette histoire et non pas de plaquer des espèces de présupposés ou de raisonnements ou de théories toutes faites, quoi, sur le sujet. Et c'est finalement en étant beaucoup justement à l'écoute des témoignages, en lisant beaucoup de choses sur le sujet, que j'arrive justement que j'essaye en tout cas de rentrer dans le cheminement des uns des autres et encore une fois d'incarner cette histoire à travers des personnages.
Une petite réaction de Fellac justement à propos de cette situation où l'autre n'est plus là. Je dirais que si je le catégorise avec des termes d'origine religieuse, le juif ou le chrétien n'est plus vraiment en Algérie. Et donc là, dans tout votre regard critique, drôle et à la fois cruel d'humour, on sent que cette figure des absents, elle pose vraiment problème.
Oui, d'abord elle pose un... C'est une partie de nous qui est absente, qui est coupée, qui est tranchée, qui est partie, dont on a été amputé. Et puis d'autre part, après, quand il n'y a que nous, il n'y a pas le miroir, parce qu'on est obligé de se regarder dans le regard de l'autre, dans la différence aussi, qui fait qu'on change, on évolue, on s'enrichit. Et moi, j'ai toujours appelé ça la consanguinité culturelle. C'est tout d'un coup, on n'a qu'un point de vue, on n'a qu'un point de vue physique, un seul. Voilà, il n'y a plus que des moustaches. Et on s'appelle tous Mohamed et on n'a plus que des moustaches. Et on ne sait plus qui est qui. Et donc, on n'a plus besoin de faire des efforts, puisque de toute façon, on est arrêté quelque part dans le temps. Et la richesse, c'est la pluralité, c'est l'autre, c'est les autres, c'est les différents sons, c'est les langues, c'est les imaginaires, c'est les religions, c'est les points de vue. Et tous ces points de vue-là ont été coupés, amputés. Donc, nous sommes restés orphelins d'une pluralité. Et voilà.
Alors, dans les textes et les albums de Jacques Ferrandez, il y a, je dirais, beaucoup de tous ces carnets d'Orient avec, effectivement, ces 9 volumes sur l'histoire de l'Algérie. Mais il y a aussi, je dirais, des carnets de voyage en Syrie, des carnets de voyage à Istanbul, des carnets de voyage au Liban, en Irak. J'aimerais, Jacques Ferrandez, et qui sont, alors là, avec des aquarelles d'une... grande, très grande beauté. Et il y a une touche vraiment qui permet d'entrer dans. C'est vraiment pour le voyageur une façon d'emmener un album pour essayer d'être en empathie avec le lieu, avec ces villes ou ces pays du sud et de l'est de la Méditerranée dans lesquels vous êtes allé, Jacques Ferrandez.
Oui, là aussi, bon, enfin, c'est mon appartenance à cet espace méditerranéen, puisque étant né à Alger, ayant vécu toute mon enfance et ma jeunesse à Nice, j'étais comme ça tiraillé entre les deux rives. Et puis je me suis mis à essayer, encore une fois, peut-être parce qu'il y avait quelque chose d'irrésolu dans le fait d'être né en Algérie et de ne pas avoir finalement réussi à avoir cette espèce de coexistence, disons, de différentes cultures ensemble. Le fait d'aller aujourd'hui à la rencontre des pays de la Méditerranée orientale, qui sont des pays arabes ou musulmans, c'est peut-être aujourd'hui une espèce de moyen par procuration de me retrouver, disons, dans cette culture avec laquelle j'étais quasiment destiné à habiter, à vivre. Donc il y a une espèce comme
donc,
ça.
Au départ, sur des croquis un peu personnels, et puis petit à petit, l'idée a été de les publier, ou c'était parti directement avec l'idée de faire des albums
Non, au départ, c'est toujours des questions de hasard. Hein. Dans ce métier, ça fonctionne beaucoup comme ça. J'ai eu l'occasion d'aller en 98 pour la première fois au Proche-Orient. J'étais allé un peu au Maghreb, mais jamais au Proche-Orient. Je suis allé à Beyrouth, en fait. Il y a un salon du livre francophone qui avait lieu chaque année. Et puis là, donc, je suis resté une douzaine de jours en passant du côté, en passant la frontière, en allant en Syrie. Et là, j'étais assez ébloui parce que il y avait justement, moi qui avais beaucoup travaillé sur les peintres orientalistes pour nourrir justement un petit peu ces mythologies par rapport à cet Orient du 19e siècle qui était un petit peu le point de départ de mon premier tome qui s'appelait Carnet d'Orient. Je me retrouvais dans les paysages qui avaient été peints par tous ces artistes qui faisaient le voyage d'Orient, aussi bien au Maghreb, en Palestine, au Proche-Orient, jusqu'en Perse même, puisque l'Orient c'était quelque chose de très, très vaste et très flou à l'époque. Et le fait de me retrouver sur place et de pouvoir confronter mes impressions à celles des peintres auxquels je me référais dans mon premier album, ça a produit une espèce de déclic. Et bon, moi qui voyage souvent avec un petit carnet pour prendre des notes et des croquis, là j'ai fait ça un peu plus en grand, disons. Et au départ, il était question de faire en fait une exposition de mes dessins sur place à Damas et à Alep, puisque c'est par la Syrie finalement que ça s'est concrétisé. Et ensuite, comme j'avais tous ces dessins disons dans mes cartons, j'ai proposé à mon éditeur de faire un livre. On a tenté l'essai, et puis comme ça a plutôt bien marché, ça a été en fait ensuite le point de départ d'une série comme ça de voyages sur l'espace méditerranéen.
Alors maintenant, on va cheminer avec le troisième de notre invité, Maurice Attia, que je sais bavard, puisqu'il nous l'a dit. Il va nous raconter à nouveau quelques belles histoires. Donc il y a...
pour lui.
C'est ça, c'est
pour lui.
Les téléphones sont toujours en grand usage. Donc Maurice Attia, de multiples livres, mais notamment pour ce qui nous occupe ce soir, Alger la Noire et Pointe Rouge, donc Alger-Marseille, aller-retour. Alger la Noire qui se passe dans les moments de grande violence, parce que c'est au moment de l'indépendance, avec un très beau personnage de policier, certain Choukroun. On a un autre ami dans la salle, d'ailleurs, qui est un peu à l'origine de cette rencontre de tous les trois, parce que c'est lui qui nous a mis en contact, qui est pas plus loin qu'ici. Il y a des jolies correspondances. Et donc, ce personnage de Choukroun qui... se fait assassiner, un flic qui se fait assassiner à Alger. Et puis, il y a son collègue qui, écœuré, va traverser la Méditerranée, comme bon nombre des Européens d'Algérie, comme on disait, et qui va se retrouver à Marseille. Alors, peut-être, je sais pas, on va peut-être parler de Pointe Rouge, mais comme vous le souhaitez, peut-être d'abord d'Alger la Noire, et puis le lien avec Pointe Rouge. Et un moment historique un peu occulté ici, qui est la grande période du sac. Donc j'aimerais un peu, Maurice Attia, au fond, que vous nous fassiez le lien. Il va y avoir un troisième, le premier entre ces deux villes, entre Alger et Marseille.
Je vais essayer.
Vaste programme.
Je vais essayer. Je tenais à faire un petit commentaire sur ce que disait Félag et ce que disait Jacques aussi.
Bien sûr.
Les peuples et les pouvoirs. Je dois sans doute ma fonction de psychiatre, psychanalyste à l'Algérie, je dirais à cause ou grâce, selon les moments, parce que une des plus grandes surprises de ma jeune enfance, je reviens à la Casbah, était que, d'origine modeste, nous vivions dans un immeuble de la Casbah. Mon père était ouvrier, ma mère ne travaillait pas, j'avais frères et sœurs, et qui appartenait à un Algérien, cet immeuble, et mon meilleur ami s'appelait Rachid, c'était le fils du proprio, qu'au passage j'ai vu circoncire sur cette fameuse terrasse. Tout ça marchait vachement bien, c'était une très belle ville piétonnière, la Casbah, c'était un univers, et on se baladait là-dedans, c'était somptueux. Et un beau jour de 54, j'avais 5 ans, je me retrouve dans un apéritif lugubre chez ma grand-mère et mes parents, dans cet immeuble.
et tout le monde était en larmes, tous les Algériens de l'immeuble et les Juifs de l'immeuble, parce que le propriétaire nous sommait de quitter les lieux. Non pas parce qu'on n'avait pas payé le loyer, mais parce que il ne voulait pas avoir notre mort sur la conscience. Et il nous a dit, cette phrase m'est restée, parce que de mes 5 ans, j'écoutais ce bonhomme que j'aimais beaucoup. Il disait à ma grand-mère, à ma mère et à mon père, il disait, bien évidemment, ici vous risquez rien, tous les gens qui vous connaissent, vous risquez rien, mais les autres. Et les autres, c'était les terroristes du moment. Et effectivement, brutalement, j'ai été basculé d'un univers où il y avait beaucoup d'Arabes et quelques Juifs, à un univers qui était Bab el-Oued, où il n'y avait quasiment plus d'Arabes, mais alors des Maltais, des Italiens, des Espagnols, voilà, complètement différent. Et très vite, la phrase qui m'est venue de manière récurrente dans mon esprit d'enfant était « Les adultes sont devenus fous ». Parce que tu es tout le monde, tu es tout le monde, dans tous sens, et que c'était insupportable. Et vous parliez de choucroune tout à l'heure. Comme je suis psy, forcément, j'essaye de comprendre ce qui me fait écrire et pourquoi j'écris. Et Alger la Noire, c'est un projet très, très ancien et un projet de loyauté familiale. Il se trouve que
on parlait de mythologie méditerranéenne, celle-là, c'est un peu une sorte de mythologie personnelle, non ?
Tout à fait. C'était un mythe familial. Il y avait une grande amitié entre Dédomé Choukroun et mon père. Et le Choukroun en question était un type très doux, qui était un petit bijoutier de maison carrée, qui était un type formidable, que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, sauf sa maison qui puait, parce que c'était au-dessus de l'arrache. Alors là, je dégustais, ça puait vraiment. Mais c'est un type magnifique. Et un beau jour, il a dit à mon père, j'en ai marre, entre l'OS qui me fait chier, le FLN qui me fait chier, l'armée, tout ça, je me casse. Et il a fait la bêtise de le dire. Et le disant, il a été exécuté pour l'exemple. Puisqu'à l'époque, l'OAS, voyant que son activité dissuasive pour empêcher les Français de quitter l'Algérie ne marchait pas, sont passés au niveau supérieur, qui était de tuer les gens qu'ils estimaient être des déserteurs. Et Choukroun, authentiquement, a été le premier Européen d'Alger qui a été exécuté pour l'exemple et qui a été annoncé à la radio clandestine de l'OAS par Salan himself. C'est une vérité historique, ça. Et je me suis dit, un jour, il faudrait que je raconte cette histoire.
Alors cette histoire, donc, c'est l'histoire d'Alger à ce moment-là, presque la fin de la guerre. Et puis, il y a donc Pointe Rouge, le passage de Alger à Marseille, avec, au fond, en toile de fond de ce roman policier, mais qui est aussi le roman d'une ville. Hein. Il y a le roman d'Alger, le roman de Marseille. Ce mouvement politique... un peu pendant de l'OAS, qui est le SAC, parce que si mes souvenirs sont bons, il a été créé pour se battre contre l'OAS.
Non, alors c'est
racontez-nous un peu, parce que c'est vrai que
moi, c'est ce qui m'a passionné dans cette histoire, parce qu'en fait, la trilogie que je suis en train de terminer là balaye en fait 58-70. Ça se terminera la mort de De Gaulle dans son lit. Et c'est fascinant quand on a le recul de voir à quel point les jeux d'alliance politique, etc., évoluent dans le temps. Et en l'occurrence, Pasqua a été envoyé avec le SAC pour aider les barbouzes.
Quelqu'un d'assez connu à Marseille.
Oui, à éliminer l'OAS. Et comme il est assez mauvais, les types, les barbouzes locaux ont dit « Vous vous cassez, vous foutez plus la merde qu'autre chose ». Et ensuite... En 67, rapprochement entre l'OAS et les gaullistes, parce que le deal était le suivant, vous oubliez tout, il y a amnistie pour les types de l'OAS, et nous allons faire cause commune contre les rouges avec le SAC, qui était la grande inquiétude. Voilà. Et donc, il se trouve que le SAC, au départ, et ça, c'est passionnant, parce que le SAC démarre d'une
office... Service d'action civique.
Alors, le SAC démarre, en fait, au départ, sur une les résistants, après la guerre, qui font une sorte de confrérie de garde rapprochée de Gaulle. C'est les fidèles d'entre les fidèles. Et puis, inéluctablement, ça se développe au fur et à mesure. Et il y a quand même comme thème récurrent dans cette officine qui est, si nous n'arrivons pas à prendre le pouvoir par les urnes, nous les prendrons par les armes.
Alors ça, c'est donc la toile de fond qui est dans
ça, Pointe
Rouge.
Mythe.
Alors, il faut voir que ce livre, il est vraiment extraordinaire. Roman policier qu'on ne lâche pas véritablement. C'est-à-dire que les deux, d'ailleurs, une fois qu'on commence, on a vraiment envie de connaître le dénouement de l'histoire. Il y a des personnages qui incarnent, au fond. Peut-être quelques mots sur les personnages.
Alors, les personnages.
Vous n'allez pas tout raconter, parce qu'il faut
il y a quelques
lecteurs qui suivent.
Il y a dans Alger la Noire et dans Pointe Rouge, c'est polyphonique. C'est la première personne et c'est quatre personnages qui parlent. Dans le premier, c'est Choucroune qui disparaît, Paco qui est fils d'anarchiste républicain et qui vit à Alger et qui est flic, sa compagne qui est sa maîtresse et qui est une femme libre, Irène, et la grand-mère de Paco qui l'a élevé dans une mythologie familiale aussi, mon père ce héros. Hein. Et dans le deuxième, Pointe Rouge, on a un univers que j'ai bien connu parce que j'étais à Marseille à cette époque-là. Le même Paco en question, la même Irène, mais qui est maintenant à Aix-en-Provence. Et deux autres personnages, Coupiguian, qui est un flic d'origine arménienne et passionné de poésie, en particulier de Lucrèce, et qui est plutôt introverti, et une jeune libraire de chez Maupetit, qui est...
C'est la librairie Maupetit qui est là ce soir, d'ailleurs.
Qui est... ça, c'est un private joke, parce que quand j'étais adolescent, j'allais acheter mes bouquins de classe à Maupetit. Et donc, une dénommée Eva, dite la fourmi, qui est gauchiste. Voilà. Et donc... Il y a aussi deux autres personnages qui sont plutôt attachants, mais qui vont disparaître assez vite. C'est un serrurier arménien qui a comme hobby non pas le tiercé ou le foot, mais de faire reconnaître le génocide arménien. Et donc, il accumule des documents, etc. Et puis, un serrurier gauchiste aussi qui, milieu étudiant, Saint-Jean-du-Désert, etc. Et voilà, une sorte de mise en place de ce qu'était la France juste avant 68.
Alors, à vous lire, je sais que, par de bonnes sources que vous n'avez lu les romans de l'ami Jean-Claude Izzo, puisque c'est un des fondateurs de la revue La Pensée de Midi. Donc là aussi, trilogie autour de Marseille, dont le personnage principal est Marseille. Et au fond, que ce sont des livres que vous n'avez découverts qu'après avoir écrit Pointe Rouge.
Tout à fait. J'ai lu la trilogie après avoir écrit la moitié de Pointe Rouge et Alger la Noire déjà, et j'ai été presque soulagé. J'ai été soulagé parce que on me disait ah ben ça ressemble à Izzo, etc. Et Izzo a éveillé une vraie passion pour Marseille. Il la décrivait avec amour, avec tendresse, avec volupté, etc. Et moi, j'ai une vraie ambivalence avec Marseille, à savoir que j'y ai vécu mon adolescence, mes premières amours, mes études, et en même temps, j'ai de la haine pour cette ville parce que c'est une ville de l'exil et que j'y ai été mal accueilli au début. Et en même temps, elle a fait trace dans mon histoire. Donc, je me suis dit, il y a une vraie différenciation au niveau du vécu parce que lui est beaucoup plus dans la tendresse que moi.
Maurice Attia, auteur de Pointe Rouge, un roman sur Marseille, Jacques Ferrandez et un nouveau tome de ses carnets d'Orient, qui est d'ailleurs préfacé par Félag, et Félag lui-même, avec son allumeur de rêves berbère, nos trois invités pour parler à la fois de leurs livres et de ses mythologies méditerranéennes à l'occasion de cette nouvelle émission du Rendez-vous de Midi. Bonne journée et au plaisir de vous retrouver le mois prochain. پیرم دادم کاتولم جیم هبونم تبگیم پیرم دادم کاتولم جیم هبونم تبگیم باعث بچه خواش ازم برفاس با دخواش ازم